Bonjour, aujourd'hui à Rencontre spirituelle, c'est la fête de Sainte Jeanne de Chantal. C'est aussi la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Et c'est l'anniversaire du décès aussi d'une Montréalaise qui a beaucoup aimé la Sainte Vierge, Jeanne d'Épaty, qui est morte en 1955. Elle était au fond, sur les dernières années de sa vie, une gardienne de Notre-Dame de Lourdes, la paroisse, l'église Notre-Dame de Lourdes sur la rue Sainte-Catherine. C'était assez extraordinaire, la dévotion à Marie de cette femme de Montréal, qui était une femme assez à l'aise et qui, justement, n'ayant beaucoup de temps libre, a été bénévole là-bas pour garder durant la nuit cette chapelle qui restait ouverte durant la nuit pendant 2 ans. C'est assez étonnant. Jeanne d'Épaty. Alors, je commence avec Jeanne de Chantal. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Jeanne de Chantal, c'est vraiment l'une des saintes les plus intéressantes de l'histoire de l'Église, pour mon goût à moi. Elle a une espèce de simplicité, une culture aussi, une grande intelligence, un grand cœur. Elle est née en 1572 et elle est morte en 1641. C'est assez étonnant dans l'histoire de l'Église, souvent les saints vont deux par deux. Hein. On sait que Saint-Benoît, nous sommes ici à la paroisse Saint-Benoît, à Montréal, dans le presbytère. Saint-Benoît qui a fondé les bénédictins, il y a déjà près de 1500 ans, et alors lui, il allait avec Saint-Scolastique. Saint-François allait avec Sainte-Claire d'Assise. Thérèse d'Avila avec Jean de la Croix, dont ce sera la fête demain, Saint-Jean de la Croix, ou plutôt après-demain. Et François de Sales, Saint-François de Sales, évêque de Genève, eh bien, va avec Sainte-Jeanne Frémiot, ou Sainte-Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, connue surtout sous le nom de Jeanne de Chantal, fondatrice des Visitandines, les monastères de la Visitation. Il serait évidemment imprudent de se scandaliser de ces amitiés spirituelles profondes. Dieu nourrit ces âmes et en fait des âmes complémentaires qui s'unissent dans la prière, comme d'autres vont s'unir dans le sacrement de mariage, mais au fond un vrai mariage doit être fondée aussi sur la prière. Les deux fécondités, si on peut dire, celles de ces amitiés spirituelles et des couples mariés, sont évidemment de nature différente. Mais ça repose sur ce mystérieux consentement, au fond, à un sacrifice amoureux commun à l'égard de Dieu. Alors, on ne peut totalement comprendre François de Sales qu'à travers la fécondité spirituelle de Jeanne de Chantal et vice-versa. Jeanne de Chantal est née le 23 janvier 1572 dans une famille de Bourgogne. Et Jeanne n'avait que 18 mois quand sa mère est décédée. Alors, c'est son père qui l'a élevée, un catholique solide, qui s'appelait Bénigne. Étrange nom, hein, de nos jours, mais très répandu à l'époque, Bénigne Frémiot, qui était magistrat de la ville de Dijon. On va vous demander, Bénigne, peut-être, d'où ça vient. Vous savez qu'il y a 12 saints Bénigne, hein, un Irlandais, 4 Français, un Suisse, 3 Italiens, un Allemand, etc. Il y en avait un, justement, qui a vécu à Dijon. Et je viens de vous dire que le père de Jeanne de Chantal, Bénigne Frémiot, était magistrat de la ville de Dijon. C'est lui qui a pris en main l'éducation de ses 3 enfants, auxquels il décide de donner lui-même les cours de catéchisme, puis il les oriente particulièrement sur la fidélité, évidemment on est au XVIe siècle, la fidélité à la vérité. On insistait beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que cette fidélité à l'Église catholique était dangereusement attaquée par les protestants qui voulaient réformer l'Église et qui la trouvaient vraiment dangereusement attaqué par toutes sortes de vices. Et puis, il faut comprendre les protestants, hein, qui voulaient réformer l'Église, qui cherchaient à être de meilleurs chrétiens, au fond, que les catholiques. Mais cette division, aux yeux des catholiques fidèles, était terrible pour eux. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Et Benigne Frémiot a pris au sérieux le danger que représentait pour lui ce subjectivisme, cette analyse personnelle de la Sainte Bible sans préserver l'unité de l'Église. C'est le subjectivisme des huguenots, des protestants huguenots de France. J'en ai déjà interviewé quelques-uns à rencontre qui étaient admirables, des hommes de Dieu. Et le siège, d'ailleurs, de cette foi protestante avait son siège dans la ville voisine de Genève, qui n'est pas tellement loin, finalement, de Dijon. Alors, le père de Jeanne de Chantal réagissait en conséquence, et ainsi Jeanne a très tôt reçu le sens de la foi catholique. Au point, paraît-il, que dans les conversations entre grandes personnes, lorsqu'il y avait de nouveaux venus qui venaient visiter son père, ben il fallait l'éloigner un peu parce qu'elle était un peu trop catholique aux yeux des gens et aux yeux de son père d'ailleurs. Car on raconte dans sa vie, vous savez que sa vie a été racontée très très tôt, tout de suite après sa mort. Il s'est écrit, on peut lire ça dans sa vie, car elle avait tôt fait à la moindre phrase pleurant l'hérésie, je m'excuse du mot, de leur ouvrir les portes de l'enfer. Alors, c'est ce qu'on écrit sur elle quand elle était enfant. C'est sympathique quand même. Il faut excuser cette âme d'enfant, car elle va changer beaucoup avec l'âge. Elle va être pleine de charité. En somme, la vérité et la charité ne sont pas dissociées, en fait, dans l'éducation que donne M. Frémiot à ses enfants. Hein. Si tout au long de sa vie, bien, Jeanne de Chantal s'est dévouée... elle s'est dévouée corps et âme, hein. Non seulement pour soulager les misères qu'elle rencontrait, mais aussi celles qu'elle allait découvrir partout. C'est avant tout à l'imitation du dévouement de son père. C'est ça qui l'entraînait à être si dévouée toute sa vie. C'est son père qui lui a donné ce sens de la charité. Ça l'amenait souvent, il l'amenait souvent d'ailleurs avec lui pour soigner les plus défavorisés des habitants de la ville de Dijon et des environs. Et Jeanne a admiré ardemment son père, parce que cet homme, il faut le reconnaître, est remarquable. Hein? Je vais vous raconter un petit détail, d'ailleurs, qui en dit long sur son courage et sa ténacité. Hein? C'est des qualités qui, de toute évidence, il a transmises à sa fille Jeanne. Lorsque sous Henri III, les grands là, du royaume, comme on disait, se sont ligués pour mettre à bas le roi. Bien, M. Frémiot est resté fidèle au roi, lui. Pour le faire fléchir, un groupe des membres de cette ligue, les ligueurs, comme on disait, ont pris en otage, imaginez, son fils. Et puis, ils ont fait savoir à M. Frémiot, secrètement, qu'il n'avait plus le choix. Ce sera la vie de son enfant, ou bien qu'il se rallie à la Révolution. Et savez-vous ce que le père de Jeanne de Chantal a répondu, le père de son frère? Ni les tourments que l'on pourrait me donner, ou ceux que l'on ferait à mon fils, que je sentirais plus que les miens, ne me pourraient ébranler à faire chose contre mon honneur et le devoir d'un homme de bien. Il faut être déterminé, hein? Pour être prêt à sacrifier son fils, pour être fidèle. Alors, les terroristes ont pillé, ils ont rendu le jeune garçon, le jeune Frémiot, contre une rançon, toutefois. Alors, Jeanne n'a pas eu de mère, mais dès l'âge de 7 ans, et d'elle-même, elle a décidé de la remplacer par qui, sa mère? Par la Sainte Vierge, à qui elle s'est consacrée. Alors, elle a décidé aussitôt de réciter chaque jour son chapelet. Et à ses résolutions, elle sera fidèle toute sa vie. On demeure d'ailleurs confondu à la fois par sa détermination dès son jeune âge, hein? Parce qu'à cet âge-là, en général, on ne se rend pas trop compte de la conséquence de ses actes. Et la foi de Jeanne est tellement incarnée que la Vierge devient sa confidente, sa mère. Et Jeanne n'a pas fait d'études particulières, mais elle possède une intelligence souple. Elle aurait une excellente éducation familiale, elle est très docile aussi, mais elle a du caractère. Elle a une réelle facilité aussi pour écrire et pour s'exprimer. Vous savez qu'elle est l'ancêtre direct, car elle se mariera, elle aura des enfants. Elle est l'ancêtre direct de Madame de Sévigné. C'est pas n'importe quoi, hein. Alors, elle est imprégnée dès son enfance de toutes les grandes questions théologiques que l'on évoque autour d'elle, hein. Elle est au courant. Si bien que la jeune fille de 20 ans, que son père, M. Frémiot, va donner en mariage au baron de Chantal, ben, outre le fait qu'elle a reçu une belle formation de jeune fille à marier, dirait-on, bien, et un peu à l'insu de chacun, comme d'elle-même, elle est très informée, très très formée aussi dans son jugement intellectuel et spirituel. On va le voir d'ailleurs, elle devient une femme exceptionnelle. Et de son père, ben, elle a su tout recevoir ce que son père lui a enseigné, puis à son mari, qu'elle va aimer d'un amour passionné et entier, elle va tout lui donner. C'est extraordinaire que cette femme qui est devenue une sainte et une religieuse, une fondatrice des Visitandines, ait pu aimer un homme, son mari, comme elle l'a aimé. C'est magnifique, hein? Quel équilibre total chez cette femme. Le 29 décembre 1592, elle aura 21 ans moins d'un mois plus tard, là, Jeanne Frémiot épouse Christophe de Rabutin, baron de Chantal, qui est l'ancêtre direct, comme je vous ai dit, de Madame de Sévigné. Alors, ça va être un état de vie tout à fait nouveau qui commence, là. Et ça va révéler le caractère particulièrement féminin de cette maîtresse-femme, hein. On peut se demander qui est Christophe de Rabutin. Mais c'est un jeune homme, fort beau, dit-on, qui était courageux, qui était promis un grand avenir à la cour. Les nobles pensaient qu'à ça, au fond, avoir un brillant avenir à la cour. Quelle perte de temps, au fond, hein. Mais il faut dire que c'était un homme qui pratiquait le duel, hein. C'était pas un catholique très, très, très catholique, hein, qu'elle s'est mise à aimer cette Jeanne de Chantal. Il aimait beaucoup l'épée. Et en plus ça, bien, ce Christophe de Rabutin, baron de Chantal, avait à son actif, on dit, plusieurs aventures galantes. Il avait eu plusieurs... passons, en tout cas. C'était quand même un parti idéal. Oui. Alors, Jeanne aussi était belle, très belle femme. Elle charme autant par son physique, qui est fort gracieux, que par sa façon de s'exprimer, puis la netteté de son jugement. Lui, il a 27 ans, puis elle en a 20. Presque 21, quoi. Entre eux, c'est le coup de foudre. Et ça va durer jusqu'à la mort du baron Chantal, 9 ans plus tard, une mort tragique, hein. C'est 9 années pendant lesquelles Christophe de Rabutin va retrouver et approfondir sa foi au contact de son épouse, qui est profondément catholique. Ils auront 3 filles et 1 fils. Et pendant les mois d'automne et d'hiver, que le baron de Chantal passe sur ses terres au fameux château de Bourbilly, où a habité Madame de Sévigné, c'est ça de son château, elle s'est retirée, le château de Bourbilly. Mais c'est pour Jeanne, ce moment-là, le temps des ravissements, dirait-on. Elle est très amoureuse de son mari qu'elle admire. Elle le suit dans le monde et elle reçoit beaucoup de gens au château de Bourbilly. Elle fête sa présence par une attention aimante et passionnée de chaque instant. Jeanne de Chantal est follement éprise. Mais elle garde la tête sur ses épaules, hein, puis elle sait où elle va. Ainsi, par exemple, elle obtient de son mari, qui est passionné de la chasse, et qu'il s'abstienne de la chasse le dimanche. Elle obtient aussi qu'il assiste à la messe avec elle tous les matins. C'est pas évident, hein. Mais elle l'obtient. Elle dit, je me souviens, elle raconte ça à ses novices, quand elle a fondé les Visitandines, elle raconte, je me souviens que Monsieur de Chantal, c'est son mari, elle parle de son mari ouvertement, hein, je me souviens que Monsieur de Chantal aimait fort à dormir la grasse matinée. C'est sympathique pour une sœur de parler de son mari de cette façon-là. Et lorsque son baron de mari, là, est à la guerre, car il y a des petites guerres, des escarmouches Alors, la vie est très différente au château de Bourbille. Alors, il n'y a plus de mondanité pour cette jeune femme qui est passionnée par son mari. Elle ne veut pas recevoir quand son mari n'est pas là. Et elle dit d'ailleurs, dans le style de l'époque, « Les yeux à qui je dois plaire sont à 100 lieues d'ici. » Elle parle de plaire aux yeux de son mari. Et dans ces longs mois, ses activités sont uniquement de dévouement et de vie spirituelle, toujours plus intense. Et d'autre part, bien son mari, Christophe de Rabutin de Chantal, a confié à sa femme, il a eu la responsabilité de relever tout son domaine, ce château et les terres. C'était mal géré à la génération précédente, lui qui avait hérité de ça. Alors, il ne peut pas s'en occuper, il est à la guerre. Alors, Jeanne de Chantal va y révéler de véritables dons d'organisatrice. Elle est toute jeune, elle est au début de la vingtaine. Elle a l'habileté en affaires. Elle acquiert une bonne expérience qui va la préparer, providentiellement peut-on dire, aux responsabilités qui vont être les siennes, là, quelques 15 ans plus tard, quand elle fondera les Visitandines. Alors, de plus en plus épris de sa femme, Christophe de Rabutin décide un jour de renoncer à sa carrière, à la cour. Il aime tellement sa femme. Alors, il rentre au château de Bourbille pour y gérer ses terres avec elle. Puis aussi pour gérer, dirait-on, la conduite de son âme. Il se convertit de plus en plus auprès de sa femme. Mais là survient un accident épouvantable, qui se produit quelques jours à peine après son retour définitif au château. Car le jeune baron Chantal est à la chasse avec son bon ami, Monsieur de Chazel. Et Monsieur de Chazel fait un faux mouvement. Il a son arquebuse en main. Et l'arquebuse part, un projectile atteint mortellement Monsieur de Chantal, le mari de Sainte-Jeanne. Il ne mourra pas sur le coup, il aura le temps de pardonner à Monsieur de Chazel, son grand ami, publiquement. Il exhorte d'ailleurs sa femme, Jeanne, à agir de même, mais elle est incapable. Puis il meurt dans une acceptation totale et paisible de la volonté de Dieu. Il meurt comme un saint, quoi. Curieux, hein? Elle l'a transformé, son mari, de façon fantastique, tellement elle l'aimait. Et pour Jeanne, qui n'arrive pas à pardonner à l'assassin involontaire de son mari, c'est terrible pour elle. Car elle s'écrie d'ailleurs, au moment où son mari agonise, elle est pas vraiment convertie au fond de son cœur. Hein? Elle dit, « Mon Dieu, prenez mes biens, mes parents, tous mes enfants, je vous les donne, mais laissez-moi au moins mon mari. » Elle l'aime. Quel amour, quelle passion, c'est fantastique. Alors, elle dit qu'elle a failli sombrer dans la folie, le désespoir. C'est son propre témoignage. Mais heureusement, elle a pris ses responsabilités en main, s'est occupée de ses enfants, puis du domaine. Hein? Et puis ça va l'occuper désormais. Alors, à vue humaine, le veuvage précoce de la baronne de Chantal, c'est une terrible cassure dans sa vie. Une cassure qui va devenir en fait une étape spirituelle capitale, car Jeanne de Chantal a supplié, elle a crié à Dieu sa peine, mais elle s'est pas révoltée. Et déjà quelques années avant la mort de son mari, il y avait en elle un appel à une vie intime avec Jésus. Mais tout à sa joie, elle n'avait pas cherché à faire cette unité entre sa vie spirituelle et sa vie amoureuse. Et dès que je ne voyais plus Monsieur de Chantal, dit-elle, je sentais en mon cœur de grands attraits d'être tout à Dieu. Mais hélas, je n'en savais pas profiter. Elle n'en profitait pas suffisamment. Hein. Elle était une bonne chrétienne, une bonne mère, une bonne femme, mais pas totalement. Et là, à 29 ans, jeune veuve, qui a été convoitée par toutes sortes d'hommes qui voulaient l'épouser, elle a refusé toutes les sollicitations. Elle a décidé de faire vœu de chasteté. Elle a choisi pour toujours entre l'amour humain et celui de celui qu'elle appelle l'époux de son âme, Jésus. Alors, pendant 9 ans encore, elle va attendre pour entrer en religion. Elle veut éduquer quand même ses enfants. Elle a 32 ans lorsqu'elle rencontre pour la première fois François de Sales en 1604. Et lui et elle, sans se connaître, ils se reconnaissent. Car tous deux, c'est curieux, hein? Ils avaient vu un jour en songe, à quelques mois de là, le visage de l'autre. Ils reçurent une révélation de Dieu. Et elle, qu'elle trouverait en cet homme-là, en François Salle, le père spirituel, dont elle a éperdument besoin dans sa solitude plus morale que physique. Et lui, bien, il avait vu en vision la femme qui incarnerait son projet de donner vie à une nouvelle famille religieuse, selon ses aspirations spirituelles qui sont assez particulières. C'est une vie spirituelle simple, très simple. Alors c'est une première victoire de François de Sales. Qu'est-ce que c'est cette victoire? C'est qu'il obtient de Jeanne qu'elle pardonne à celui qui a tué accidentellement son mari, ce monsieur de Chazelle. Et Jeanne accepte extraordinairement, à 33 ans, de le revoir pour la première fois. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bien, quelques temps après, formidable pour elle, elle fait rien à moitié, alors elle accepte de pardonner totalement en devenant la marraine du dernier-né de monsieur de Chazelle. Alors Jeanne va vouer très vite une affection tendre et partagée à Saint-François de Sales, son aîné d'une dizaine d'années. Elle dit « J'admirais tout ce qu'il faisait et disait, et je le regardais comme un ange du Seigneur. » Mais François de Sales, qui est évêque de Genève, va conduire Jeanne progressivement, là, sans forcer jamais, jamais ce cœur qui connaît mal ses aspirations, mais que lui, il sait que son cœur, le cœur de Jeanne est absolu. Et que ce cœur-là est appelé à une intimité d'amour plus totale avec le Seigneur Jésus. Alors pendant ces années-là où sainte Jeanne de Chantal vit une espèce de tempête intérieure de tentation autour d'un désir de Dieu qui se purifie tout le temps et qui croît à mesure de ses actes d'abandon, l'évêque François de Sales ne cesse de l'apaiser. Il la pacifie au milieu de ses scrupules. Il lui dit « Les tentations ?» Mais c'est par l'indifférence qu'il vaut mieux les traiter. Il lui écrit « Vous êtes trop jalouse de cette pureté de votre foi. Il vous semble que tout la gâte. Non, non, ma fille, laissez courir le vent et ne pensez pas que le frifili des feuilles soit le cliquetis des armes. » Ils ont de ces expressions, les gens à cette époque, qui nous étonnent aujourd'hui. Et à la fin de 1605, l'année suivante, donc de leur rencontre, c'est le dialogue de deux cœurs, absolu, là. Qui se rencontre au plus profond. C'est François de Sales qui dit « C'est donc tout de bon que vous voulez servir à Jésus-Christ ?» Elle lui dit « Tout de bon. » Alors il dit « Pour conclusion, ma fille, vous ne voulez donc que Dieu ?» Et elle lui répond « Je ne veux que lui, pour le temps et l'éternité. » C'est un amour absolu de Dieu. Et François de Sales va alors révéler à Jeanne de Chantal ce qu'il conçoit pour elle, c'est-à-dire la consécration religieuse et la fondation d'une communauté nouvelle. Il faudra attendre 1610 pour que les pressions familiales autour de Jeanne, puis la situation de ses enfants aussi, ainsi que toutes sortes d'obstacles financiers, elle puisse les surmonter. Alors, elle aura alors 38 ans. Et le 29 mars 1610, amenant avec elle deux de ses filles, après avoir dit adieu aux siens, puis... Il a fallu qu'elle échappe à son pauvre fils qui s'appelait Cels Bénigne. Bénigne comme son père, Cels, mais il y a cinq saints Cels. Hein? Il y en a trois martyrs, deux évêques. Alors, le pauvre enfant, lui, est âgé de 14 ans. Il tente de retenir sa mère, c'est normal. Hein? Mais elle sait le confier. Elle ne l'abandonne pas comme ça. Il ne faut pas penser ça. Hein? Alors Jeanne part avec ses deux filles pour Annecy, qui va être lieu de la première fondation des Visitandines. Et mère de Chantal va continuer à élever auprès d'elle ses deux plus jeunes enfants, ses deux filles, jusqu'au mariage de ces dernières. Creusée là, par le déchirement maternel, Jeanne quitte le monde. Or, imaginez que l'ordre qu'elle laissera à sa mort va compter 80 couvents. 80 couvents, c'est fantastique, et tout à l'heure nous continuerons. Et je termine donc la vie de sainte Jeanne de Chantal. Depuis longtemps, saint François de Sales, ton grand ami, évêque de Genève, aspirait à la fondation d'un ordre religieux, je vous l'ai dit, qui permettrait aux postulantes même de conditions plutôt fragiles de vivre une vie consacrée. Vous savez que beaucoup de veuves... comme Jeanne de Chantal, sont entrées chez les Visitandines. On disait que dans certains couvents, il y avait de nombreuses veuves, c'est-à-dire des femmes d'une cinquantaine d'années, qui se donnaient tout à coup à Dieu chez les Visitandines, où elles étaient plus facilement acceptées que dans d'autres congrégations où on hésitait d'accepter des femmes passées l'âge de 35 ans. Alors l'accent tout particulier là, de cette spiritualité particulière de François de Sales est passée évidemment dans le cœur de Jeanne de Chantal et dans le cœur des visitandines. C'est fondé tout ça sur le désir de rappeler que la dévotion et l'appel à la sainteté, c'est l'affaire et la vocation de tous, que l'on soit laïque ou que l'on soit religieux. Il y a des gens qui disent, bon, je vais à la messe le dimanche, ça suffit. Il n'y a aucune aspiration à se dépasser, à y aller peut-être un autre jour, au moins en semaine, à faire un peu plus, à prier vraiment chaque jour, à s'occuper vraiment des autres et pas seulement au temps de Noël, ou pas seulement quand il y a une quête pour des pauvres, etc. Des gens qui pensent vraiment à se donner, à se consacrer, tout en étant dans le monde, hein. C'est curieux comment c'est difficile de secouer notre cœur et notre intelligence des choses de Dieu. C'est le caractère équilibré et doux de la spiritualité de François de Sales qui a saisi Jeanne et les visitandines et qui a saisi des milliers, des centaines, sinon des millions de catholiques depuis ce temps-là. Il faut lire le traité, les traités de Saint François de Sales, c'est très très beau, mais c'est dans un langage d'un autre siècle. C'est mieux peut-être de lire des livres contemporains sur la spiritualité de François de Sales. À ses sœurs, d'ailleurs, Jeanne de Chantal répétait le mot de François de Sales, « Notre Seigneur ne naîtra jamais que dans les cœurs approfondis en humilité et élargis en simplicité et en cordialité. » C'est beau pour Noël, pensons-y. « Notre Seigneur ne naîtra jamais que dans les cœurs approfondis en humilité et élargi en simplicité et en cordialité. » Faut pas se méprendre. La spiritualité de François de Sales et de Jeanne de Chantal n'est pas celle de la facilité. C'est pas facile. C'est au contraire celle de l'exigence. C'est l'exigence la plus profonde. Celle qui accepte de se laisser vider de soi-même. Pour que Dieu, pour que le Christ prenne toute sa place en nous. Lorsque François de Sales meurt, mère de Chantal a encore 19 ans à vivre, et c'est Saint-Vincent de Paul qui va devenir, suivant les derniers conseils de François de Sales, le nouveau conseiller spirituel de l'ordre des visitandines, qui ne cesse de grandir, comme je vous ai dit, parce qu'à sa mort, il va y avoir 80 couvents, et la mort de Saint-François de Sales, c'est le dernier détachement humain de cette sainte que l'on célèbre aujourd'hui, Sainte-Jeanne de Chantal, qui est déjà considérée comme une sainte de son vivant, et qui, depuis quelque temps, est habité d'un tel feu intérieur à chacune de ses communions que les gens remarquent la transformation de son regard et de tout son être quand elle communie. Et elle meurt à son tour en 1641 à Moulins d'une congestion pulmonaire en disant « Jésus, Jésus, Jésus ». Et ce sont ses derniers mots. C'est ceux de cette épouse qui est devenue parfaite, épouse de Dieu. Elle avait 69 ans. La spiritualité de ce qu'on appelle la visitation, les sœurs de la visitation, les visitandines, mais cette spiritualité qui est nouvelle à l'époque de Jeanne de Chantal, qui est fondée sur les vertus courantes plus que sur l'héroïsme, ça semble particulièrement adapté à notre Église du XXe siècle finissant. Cette spiritualité peut être aussi celle de l'apostolat de tous les laïcs. Et maintenant, Notre-Dame de Guadeloupe, c'est la fête aujourd'hui au Mexique. Elle est la reine du Mexique. On peut se demander pourquoi des hommes viennent de siècle en siècle prier dans ces lieux qui ont été sanctifiés par cette apparition de la Vierge en 1530 environ. C'est assez étonnant. C'est le Mexique tout entier, qui est une immense montagne, au fond, qui s'élève de la mer jusqu'à un cône, hein, qui culmine à plus de 5400 mètres. C'est là qu'il y a le plateau de Mexico, qui s'étend à 2000 mètres d'altitude. Et de cette capitale, on peut voir le Popocatépetl, ce célèbre volcan dont le cratère laisse toujours échapper une fumée qui semble une fumée éternelle, et les Aztèques, eux, croyaient qu'il abritait l'esprit des tyrans disparus. Et eux, ces tyrans étaient soumis au supplice du feu. Et ils grognaient, ils provoquaient des convulsions. Ils avaient toutes sortes d'interprétations comme ça sur la nature. Religion étrange. Et au cœur de ce paysage, l'endroit où la Vierge est apparue, le Tepeyac, était, avant la conquête du pays par les Espagnols, au début du XVIe siècle, c'était un lieu de sacrifice. Et quel sacrifice, hein? C'était celui du sanctuaire aussi, de la principale divinité locale, un petit village sous la colonie qui est devenu aujourd'hui un quartier du nord-est de la ville de Mexico. Et c'est là que la fête de la Vierge de Guadeloupe a pris le relais du culte de la déesse mère des Aztèques, la déesse Tonantzin. Les foules viennent aujourd'hui pour y vénérer Marie. Au cours de son second voyage vers les Indes occidentales, Christophe Colomb avait découvert le 3 novembre 1494 l'île des Antilles qu'il a baptisée du nom de Guadeloupe en souvenir d'un pèlerinage qu'il avait accompli au couvent de Guadeloupe, et c'est dans l'Estrémadure, à 200 kilomètres au sud-ouest de Madrid. Alors il va ramener peu après, dans ce haut lieu marial espagnol, un groupe d'Indiens pour les y faire baptiser. De ce même monastère, Cortés et Pizarre, originaires de la région, s'étaient prosternés devant l'image de la Vierge, protectrice de la chrétienté espagnole. Avant de partir à la conquête du Nouveau Monde, et Fernand Cortés, le conquistador du Mexique, va offrir à la Vierge de Guadeloupe un ex-voto qui représente un scorpion d'or, après avoir été guéri d'une piqûre de cet animal. En décembre 1519, Cortés prend la capitale de l'Empire aztèque, Mexico-Tenochtitlan, et peu après, les autorités espagnoles, un vice-roi, un évêque et des missionnaires vont s'installer en Nouvelle-Espagne, c'est le nom donné au Mexique pendant l'époque, à cette époque-là, là. Et 12 années plus tard, là, le 9 décembre 1531 au matin, un paysan indien du nom de Juan Diego, ou Juan Diego, alors âgé de 51 ans, qui avait été baptisé 4 ans plus tôt, une âme humble et simple, il se rend dans le quartier de Tlatelolco pour entendre la messe chez les franciscaines, qui l'instruisent en religion. Et soudain, sur la route, ce néophyte, ce nouveau chrétien, entend une voix douce qui l'appelle, et parvenu au sommet du coteau de Tepeyac, Juan Diego a aperçu une dame éblouissante de lumière. Et selon le récit fort précieux de l'Indien Don Antonio Valerio, les Indiens portaient, après leur baptême, des noms espagnols, qui était contemporain des événements, mais la dame lui a révélé, « Sache-toi, Juan Diego, que je suis la Vierge Marie, mère du vrai Dieu, créateur de la vie, maître du ciel et de la terre, et je désire que sur cet emplacement soit construit un théocalli, c'est-à-dire une chapelle, qui me soit consacrée, afin que ceux qui me cherchent me trouvent. » Afin également que je puisse montrer ma compassion et mon amour à tous les habitants de ton pays. Je serai là pour entendre les supplications, les lamentations, les peines, pour soulager les malheureux, ainsi que pour protéger ceux qui réclament ma protection. Pour exécuter ma volonté, rends-toi au palais de l'évêque à Mexico. Dis-lui que je t'envoie. Raconte-lui ce que tu as vu. Mais c'était pas si simple que ça. Juan Diego, il court au palais épiscopal de l'évêque, qui s'appelle Juan Zumarraga, qui est né justement en Estrémadure, là où il y a le sanctuaire de Guadeloupe en Espagne. Alors les serviteurs refusent évidemment d'annoncer un Indien misérablement vêtu. Alors le voyant, Juan Diego, il attend. Il attend patiemment pendant plusieurs heures, assis sur le sol, est enveloppé de son ayat, une couverture, c'est porté par les paysans mexicains. Et l'évêque consent enfin à le recevoir. Et là, Juan se met à genoux devant lui, il lui raconte fidèlement ce qu'il a vu et entendu. On parlait comme ça, à genoux devant les évêques. C'est impensable aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Il ne faut pas trop s'en scandaliser. Alors, méfiant, l'évêque diffère l'entretien. Déçu, désemparé, notre Indien, Juan Diego, va retrouver la Vierge. Il la supplie d'envoyer quelqu'un d'important qui sera écouté, lui, et la Vierge lui renouvelle sa confiance totale, lui demande de s'acquitter de sa mission. Et le lendemain, le dimanche 10 décembre 1531, Juan se rend à la chapelle des franciscaines pour assister à la messe. Il retourne chez l'évêque, qui, ébranlé, lui demande une preuve. Alors là, notre messager de Marie retourne au coteau. Et la mère du Christ le rassure en lui promettant de lui accorder dès le lendemain le signe demandé. Alors Juan Diego rentre dans son village où il apprend que l'oncle qui l'a élevé est très malade, dans un état désespéré. Mais Marie guérit le moribond et demande à son neveu de monter au sommet du coteau pour y cueillir des fleurs et des roses. Et là, en plein hiver, sur une cime où il y a un peu d'herbe, s'étend alors un tapis multicolore au pied de Juan Diego, et voilà le signe. Alors, de retour au palais épiscopal, notre Indien étale les fleurs, rapportées dans son manteau devant l'évêque, qui est bouleversé par ce miracle. C'est le mardi 12 décembre 1531, il y a plus de 450 ans. Et là, l'évêque et son entourage aperçoivent, comme peinte sur le manteau déplié par Juan Diego, l'image de Marie, cette fameuse image de Notre-Dame de Guadeloupe, telle que le voyant l'a décrite. Et le lendemain, le 13 décembre, l'évêque est à genoux sur le coteau, et il promet à la Vierge, qui désirait que son sanctuaire se nomme Notre-Dame de Guadeloupe, de lui construire une chapelle. Et là, le 30 décembre, la première pierre en est posée, Juan Diego, qui devient le gardien honoré de ce haut lieu de dévotion à la Vierge, mourra en 1548. Ses cendres, d'ailleurs, reposent dans la chapelle de la Vierge. Quant à cette effigie de Marie sur son hayat, son manteau, elle trône aujourd'hui au-dessus du maître-autel de Notre-Dame de Guadeloupe à Mexico. Cette peinture n'a pas été détruite par le temps. Ses couleurs sont restées intactes. C'est un mystère. Certains disent que cette image présente pour la science une énigme du même ordre que celle du suaire de Turin. D'ailleurs, on a confié à un laboratoire l'analyse spécialisée deux fibres colorées de l'icône. Et selon les résultats, ces fibres ne contiennent, écoutez bien, aucun colorant, ni végétal, ni minéral, ni synthétique. Il y a une autre énigme qui entoure cette image. En 1951, et ça, c'est fantastique. En 1951, un photographe, en regardant une photo en gros plan de l'image de la Vierge de Guadeloupe, a découvert une figure humaine reflétée dans l'une des pupilles. C'est fantastique, hein? Le phénomène se produit parfois en photo et en film, mais cet effet d'optique n'est pratiquement pas utilisé en peinture, hein? C'est évident. Là, il y a des ophtalmologues qui ont confirmé récemment que cette image était bien dans l'œil de Marie et qu'elle reflétait la figure d'un homme barbu, tout comme le ferait un œil humain. Et on sait que Juan Diego était barbu. En 1531, au moment de ce miracle, l'évêque a organisé avec l'accord de Fernand Cortés une cérémonie placée sous la présidence de la femme du conquistador, la marquise de la vallée d'Oaxaca, à l'occasion de la fête de la Nativité, en l'honneur de l'Immaculée Conception. Il avait obtenu auparavant que la cathédrale de la ville de Mexico soit dédiée à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu. Une procession à la tête de laquelle s'avançait Cortés, sa femme et l'évêque, conduisait l'image miraculeuse de la Vierge de Guadeloupe de la cathédrale à son nouveau sanctuaire, construit en deux semaines à Tepeyac. Et là, le cortège était constitué d'une foule importante d'Indiens et d'Espagnols, chantant et dansant au son des trompettes et des tambours. Et la dévotion à la Vierge de Guadeloupe fut encouragée officiellement par l'évêque Montufar, qui fonda la première basilique du lieu en 1555. Mais ce n'est qu'en 1609 que sera érigé le premier édifice en maçonnerie voûtée au Tepeyac, ce monticule où la Vierge était apparue. Ce sanctuaire a pu être construit grâce à une souscription publique Et le temple est terminé, bien, la Sainte Image, là, y a été installée par l'archevêque Juan de la Serna en 1622. Et en 1694, a été entrepris l'édification d'une basilique plus vaste. Et ce bâtiment est actuellement menacé de ruines. Une nouvelle église moderne pouvant recevoir 20 000 personnes a été construite et inaugurée en 1976. En 1629, cette image sacrée, amenée en procession de Tepeyac à Mexico, aurait délivré, dit-on, la capitale de la menace des eaux. Hein? On sait que dès l'époque aztèque, la ville de Mexico, Tenochtitlan, a vécu à la merci de l'inondation qui se répétait presque chaque année en septembre. D'ailleurs, la capitale, malgré son attitude élevée, était une cité, comme on dit, une cité lacustre, hein? Presque construite sur un marais, quoi, et lentement reconquise sur les lagunes. La Vierge de Guadeloupe est devenue la principale protectrice contre le plus ancien fléau de Mexico, dit-on dans les vieux textes, le déluge, comme on dit. Et au début de l'année 1545, alors que la peste frappait le pays, l'évêque Zumárraga a organisé un pèlerinage d'enfants âgés de moins de 7 ans qui sont venus prier devant l'image sacrée. Et peu de temps après, l'épidémie est disparue. L'efficacité, dit-on, thérapeutique de la Madone contre les plaies du même genre se serait exercée en 1545, 1576, 1579, 1595 et de 1725 à 1728. Alors, il y a des fêtes fantastiques aujourd'hui, chaque année, le 12 décembre, dans tout le Mexique. Elle est la patronne protectrice de la Nouvelle-Espagne, en somme du Mexique. Cette Madone brune du Tepeyac est devenue la reine et la mère des Mexicains, qui se reconnaissaient ses esclaves, on peut dire, et ses fils. Et elle va rester, depuis ce temps-là, au centre de la dévotion collective, la piété populaire mexicaine. Dévotion populaire qui est issue d'une espèce de catholicisme baroque, hein, et un peu sensuel. C'est étrange. Hein. Les créoles, les métis, les indiens se rassemblent très tôt derrière la bannière de la Vierge de Guadeloupe dans une même ferveur religieuse et assez nationaliste, hein, face à tous ces gens qui dominent et qui exploitent ce pauvre peuple. On l'a vu encore dernièrement. C'est scandaleux combien les présidents semblent être accusés de crimes épouvantables à l'égard de ce pauvre peuple. La bannière de Notre-Dame de Guadeloupe a entraîné les foules vers l'indépendance en 1810, l'indépendance du Mexique. Et ce sont des curés, des prêtres, le père Hidalgo, le père Morelos, qui ont conduit les Mexicains à conquérir leur indépendance. Et en 1827, lors de son abdication, le premier empereur mexicain, Augustin Iturbide, qui est mort en 1824, et qui a régné plutôt jusqu'en 1824, aurait déposé son sceptre au pied de la Vierge de Guadeloupe. Et la signature du traité de paix qui a mis fin au conflit entre les États-Unis et le Mexique s'est fait dans le sanctuaire de Guadeloupe en 1847. Je vous fais grâce de toutes sortes d'autres détails extrêmement intéressants, mais de toute façon, on sait que Zapata, à la tête des guérilleros improvisés sans uniforme et révolutionnaires, chaussés de sandales héritées de la coutume des franciscains qu'ils avaient tellement admirés, les franciscains qui avaient converti les Aztèques et qui ont été aimé à tel point par les Indiens, c'était extraordinaire. Les franciscains, en somme, ont délivré ce peuple des prêtres païens qui pratiquaient des crimes, des milliers d'assassinats de jeunes gens dont on offrait le cœur au soleil pour que le soleil fasse pousser les récoltes. C'était une religion abominable. Mais alors Zapata, chaussé de sandales, armé de fusils, de machettes et de scapulaires, ont défilé dans Mexico le 4 décembre 1914, accrochés à la bannière de la Vierge de Guadeloupe, en faisant sonner les cloches de la capitale. Hein? Et le cri du curé Hidalgo a traversé alors un siècle d'un seul coup, si on peut dire. Et le 25 mars 1915 est signé dans l'Hacienda de Guadeloupe et dans l'État de Coahuila le plan de Guadeloupe. Et c'est un programme politique et révolutionnaire ratifié par le leader de la révolution, Venustiano Carranza, l'année suivante, le 12 décembre, jour de la fête de la Vierge de Guadeloupe. Cette Vierge de Guadeloupe a été tellement honorée que c'en est devenu presque du paganisme. Mais heureusement, il y a toujours des prêtres pour ramener les Indiens les moins avertis à une dévotion plus solide et plus forte. On sait de toute façon que Marie Guadeloupe, de Guadeloupe, a permis aux Espagnols du Mexique et aux Indiens du Mexique de vivre un catholicisme plus solide, plus ferme. Pour ce qui est des crimes que l'on commettait chez les Indiens dans le temps autrefois, on peut les lire dans des ouvrages magnifiques, extrêmement intéressants, et ce sont des témoins de l'époque qui nous racontent comment on pratiquait ces crimes épouvantables. C'est tellement terrible que j'ai peine à vous le raconter, mais on peut le lire aussi sous la plume de Jacques Sustel. Dans la forme la plus courante de ce rite, la victime était étendue, le dos sur une pierre légèrement bombée, tandis que quatre prêtres, les prêtres païens, là, lui tenaient les bras et les jambes, et qu'un cinquième prêtre, lui ouvrant la poitrine d'un coup de son couteau de silex, lui arrachait le cœur. Fréquemment aussi se déroulait le sacrifice que les chroniqueurs espagnols ont qualifié de « gladiatorio ». Attaché à un énorme disque de pierre, le Temalacalte, par une corde qui lui laissait la liberté de ses mouvements, le captif, muni d'armes de bois, devait combattre successivement plusieurs guerriers aztèques normalement armés, et si par extraordinaire ils ne succombaient pas à leurs assauts, ils pouvaient avoir la vie sauve. Et savez-vous qu'est-ce qu'on faisait avec ces pauvres jeunes gens que l'on tuait comme ça en Syrie et par milliers parfois? On les jetait en bas de ces grands hôtels, ces temples qui sont constitués de nombreuses marches, alors on jetait les cadavres et on mangeait ces cadavres. C'était du cannibalisme épouvantable, on n'a pas idée, je ne peux pas tout vous raconter, c'est trop terrible. Mieux vaut les lire, mieux vaut se rendre compte combien la religion catholique, malgré certains insuccès, malgré certains abus, a délivré le peuple du Mexique, et en particulier sous la conduite de la Vierge Notre-Dame de Guadeloupe.